Bienvenue sur le podcast Comme Julien, l'émission qui conjugue sciences de la communication, psychologie sociale et analyse de cas approfondis. Tout cela dans un seul et même but, découvrir comment mieux convaincre vos clients. Bonjour et bienvenue dans le podcast Comme Julien, je suis Julien Carcali, sujet du jour, la question du why ou pourquoi en anglais et le personal branding avec mon invité Stéphane Brio que je vais accueillir dans un instant. Plus jeune, Stéphane avait envie de ressembler à son oncle entrepreneur. À l'époque, Internet et le monde des blogs faisaient son apparition. Il a beaucoup appris en lisant des bouquins sur les forums sur donc ce monde de l'Internet. Il a écrit un livre d'ailleurs, Bien utiliser son blog, paru aux éditions Erol. Mais son truc à lui, depuis plusieurs mois, c'est le développement personnel et notamment le personal branding. On nous écoute maintenant. Bonjour Stéphane Brio, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. On va parler donc de la question du why ou pourquoi donc en anglais et le personal branding. Donc enchanté de t'avoir aujourd'hui dans cette émission, dans cet épisode.
Ben salut à toi Julien, merci de me recevoir.
Merci à toi d'être présent. Alors pour la petite histoire, on a 6 heures de décalage. On tourne, il est 18h aujourd'hui. Il est quelle heure chez toi ?
Il est minuit.
Tu as été motivé pour rester jusqu'à minuit pour pouvoir tourner cet épisode. Merci beaucoup.
J'aime bien la nuit. J'ai toujours bien aimé la nuit. Je trouve que c'est un environnement qui nous pousse à la sérénité. Alors, pour certaines personnes, c'est un environnement un peu angoissant de se retrouver face à soi-même. Mais j'ai toujours beaucoup aimé la nuit parce qu'elle m'a toujours apporté beaucoup de sérénité et de calme. Donc voilà, j'aime bien. C'est cool.
Et t'arrives à tenir t'as pris quoi juste avant de venir? Un gros café, un gros thé? Tu m'as parlé de thé, je crois.
Ouais, là, je me suis fait un thé, mais en fait, j'étais en train de regarder Discovery Channel, une émission que j'aime beaucoup avec Morgan Freeman, qui est présentée par Morgan Freeman, qui s'appelle Voyage dans l'espace-temps. Et là, il était question du libre arbitre. Donc, c'était très intéressant.
D'accord. Bon, bah écoute, nous, on va parler aujourd'hui donc de la question du why, le personal branding. Ma première question pour toi, c'est pourrais-tu nous résumer en quelques mots ce qu'est la recherche donc de ce why, de ce pourquoi en personal branding ?
C'est, en quelques mots, ça va être compliqué. C'est quelque chose qui est très, très vaste. Disons que l'idée, c'est de trouver ta place, la place qui est la plus juste pour toi. En fonction, quand je dis toi, c'est pour l'auditeur, pour la personne qui est en recherche, celle qui correspond le mieux à tes valeurs et celle où tu vas pouvoir exploiter tes talents naturels. Alors, très résumé, c'est ça.
Ok, donc moi, si je veux le reformuler, c'est un peu trouver sa propre raison d'être, sa cause, ses croyances.
C'est un petit peu ça, oui. C'est un petit peu ça. Il y a un petit peu de cet esprit-là. L'idée, en fait, étant d'aller chercher dans les souvenirs de la personne, de la faire parler de ses souvenirs, et puis de mon côté, moi, de noter un petit peu toutes les valeurs, tous les mots qui vont être utilisés de façon consciente ou inconsciente par la personne avec qui je discute, afin de faire émerger une liste de valeurs et de voir quels sont les liens qui existe entre ces valeurs et entre les différents souvenirs, les différentes actions. Parce qu'un souvenir, c'est pas simplement un souvenir, c'est qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit, quelle incidence ça a eu sur la personne, sur son parcours, et de l'aider en fait à tracer le lien entre ces différents points. Je sais pas si tu te rappelles, quand on était môme, il y avait, tu sais, ces fameux dessins avec des points reliés, des points numérotés.
Ouais.
Et puis, tu reliais les points et tu voyais apparaître donc un animal, un objet ou autre chose. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. On imagine qu'on a une feuille blanche sur laquelle il y a plein de choses qui sont jetées comme ça et chaque point représente un souvenir et on va prendre le crayon et puis le but du jeu, ça va être de tracer, de relier ces différents points pour faire apparaître la forme. Donc ici, ça va être la raison d'être.
Ok, je prends des notes. En même temps, je trouve ça, j'adore cette analogie de tracer des points pour pouvoir relier chaque idée puis créer en fait une sorte d'histoire. Et donc, tu fais un peu de storytelling.
Mais en fait, on raconte l'histoire de la personne. L'idée, en fait, on la raconte. Déjà, c'est la personne qui me la raconte. Moi, je l'écoute. Alors, c'est important de pouvoir l'écouter en mettant de côté mon propre système de valeurs et de ne pas projeter sur elle des choses qui appartiennent à ma propre histoire. Donc, d'être le plus neutre possible. Et puis, donc, à la fin, effectivement, on va créer l'ébauche du pourquoi, on va créer une phrase. Donc, moi, la mienne, c'est « Entendre et révéler l'humain pour que chacun s'affirme au monde ». Il y en a quelques autres. Alors, si tu me donnes une petite seconde, je peux t'en donner une ou deux. J'ai « Écouter et ressentir le monde pour que chacun puisse révéler sa propre légende, propulser les gens de manière à ce qu'ils laissent leur empreinte sur le monde ». Donc, c'est… On va tirer de cet entretien, on va tirer une ébauche du pourquoi qui donne un petit peu un but, un cap, une direction que la personne suit en fait depuis toujours, mais sans avoir pu mettre des mots dessus. Et on va avec cette liste de pourquoi, on a toute une liste de valeurs et d'actions qui sont les comment. Donc, comment on va incarner notre pourquoi au quotidien. Et le comment, c'est tous ces petits coups de crayon qu'on met au fur et à mesure, qui sont en adéquation avec nos valeurs, qui sont en adéquation avec ce cap que l'on souhaite suivre et qui nous permettent d'avoir déjà notre histoire sans en avoir vraiment conscience. Mais à partir du moment où on a son pourquoi, on va être capable petit à petit d'incarner un peu plus pleinement son histoire et de la déplier au travers de la communication. On devient beaucoup plus conscient de ce qu'on fait.
Ok. Est-ce que ça facilite au jour le jour notre travail?
Ah ouais, clairement. Bien sûr, ça te permet, si tu veux, on parle souvent de la mission de vie dans l'entrepreneuriat, de ce fameux truc-là, mais il y a une espèce de dimension un petit peu ésotérique. Et j'ai lu pas mal d'exercices sur le web pour t'aider à trouver ta mission de vie. Et je suis toujours resté sur ma faim parce que tu sais pas trop, quoi, en fait. Hein, on te file trois exercices et puis démerdons-y, pépère. Et voilà, c'est un peu le flou artistique. Et là, ce que j'ai bien aimé dans l'approche de Simon Sinek, c'est qu'il nous tourne vers le passé. Et finalement, en ayant lu beaucoup de choses, en m'étant beaucoup formé au développement personnel, tu te rends compte que finalement, cette question du pourquoi, elle est très, très centrale dans tout ce qu'on fait en matière de développement personnel. On la retrouve partout. Et en fait, c'est une question qu'on a oubliée, mais qu'on posait beaucoup quand on était gamin. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et puis, il y a un moment donné, nos parents sont un peu fatigués du pourquoi et nous disent « parce que c'est comme ça, point ». Et on apprend finalement à ne plus poser la question du pourquoi. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, il faut avoir un équilibre parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à chercher des raisons à tout. Et puis, il y a ceux qui se posent jamais de questions et qui avancent comme des TGV sans savoir vraiment où ils vont. L'idéal, si tu veux, c'est d'avoir un peu un équilibre entre les deux, savoir quand est-ce qu'il faut se poser des questions, s'interroger, trouver des réponses pour faire en sorte d'amener un peu d'essence dans le moteur pour pouvoir avancer et surtout savoir où on va. Donc, est-ce que ça nous aide? Oui, bien sûr que ça nous aide parce que ça nous donne un cap à suivre et que ça nous permet d'avoir un cadre. Sans ce cadre, on est un peu paumé. L'être humain a besoin tout à la fois de sentir la liberté et de sentir le cadre. Et la notion du cadre, c'est quelque chose qui est très présent en sport et dans l'art. Dans l'art, la photographie et les peintres travaillent autour d'un cadre, enfin dans un cadre. Hein. En photo, c'était le 24-36 et les peintres, on le voit très bien selon la taille de la toile. Et puis les sportifs, sur un terrain de sport, tu prennes un terrain de tennis, une table de ping-pong, que tu prennes un terrain de foot, un terrain de rugby, de foot américain, de baseball, tu as toujours des limites. Mais ces limites, elles ne sont pas là pour contraindre les joueurs, elles sont là pour qu'ils puissent exprimer pleinement leur talent. Parce que si tu fais un terrain de foot de 15 km ou un terrain de foot qui n'a pas de limite, ça perd de son intérêt. Ça perd vraiment de son intérêt. Si tu fais une toile qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres en peinture, ça va perdre de son intérêt parce que tu n'auras pas une vue globale de l'œuvre. Tu ne verras que des petits bouts d'œuvre. Donc, tu auras une forme de frustration. L'idée du cadre, c'est de nous aider à nous canaliser. Et le pourquoi nous apporte ce cadre qui nous permet de canaliser notre énergie, de canaliser notre communication et de faire en sorte que chacune des actions qu'on va avoir en termes de communication converge vers l'objectif que l'on a choisi.
C'est intéressant parce que tu parles du livre de Simon Sinek. Les auditeurs ne connaissent pas, peut-être pas forcément. Le bouquin s'appelle Start with Why. Ouais. Est-ce que toi, il a été révélateur pour toi quand tu as commencé à le lire et que tu as cherché justement à j'imagine, utiliser ce que lui, il conseillait?
Alors, il a été révélateur, oui et non. En fait, si tu veux, j'ai toujours eu depuis le début un problème avec le marketing et avec sa communication, telle qu'on nous l'enseigne, qui est centrée sur le produit. Et ça m'a toujours posé un vrai problème. Et puis, mais je savais pas pourquoi. Pour le coup, je ne savais pas pourquoi. Je savais pas pour quelle raison. Et j'ai lu ce bouquin sur les recommandations d'une amie qui était coach depuis déjà de longues années. Et au moment, moi, où j'étais en train de réfléchir à réorienter ma carrière sur l'accompagnement, elle m'a proposé de lire ce bouquin. Donc, je l'ai acheté et puis je l'ai lu. Et j'ai pris une claque. J'ai pris une claque dans le sens où j'ai compris pourquoi, en fait, je me sentais pas à l'aise avec le marketing traditionnel qui est du push. Parce que finalement, quand tu regardes le marketing aujourd'hui, même si on te parle d'inbound marketing, donc de faire du marketing entrant, via la publication de contenu ou autre, finalement, ça reste ni plus ni moins que du push. C'est je te parle de mon produit, je te parle de moi. Finalement, il y a peu de valeur, il y a peu de conviction, il y a peu d'entrain, il se passe pas grand-chose, quoi, réellement. Et quand on regarde sur un réseau sur LinkedIn, eh ben, étrangement, on se rend compte que les publications qui ont un véritable impact, on va mettre de côté tous les gens qui sont les gros influenceurs. Mais si tu prends une personne normale avec 2000, 3000 abonnés, eh bien, ces gens-là vont réussir à avoir un impact à partir du moment où elles vont commencer à parler d'elles, où elles vont parler un petit peu de ce qui les touche, de ce que sont leurs convictions, de ce que sont leurs valeurs. Il y a pas mal de posts qui ont tourné ces derniers temps sur des gens qui ont vécu des burn-out, donc qui ont expliqué comment le burn-out est arrivé et comment surtout ils en sont sortis et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Ce sont des postes qui ont eu un écho, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer pour une personne lambda. Donc, je trouve ça intéressant et cette façon de procéder avec pourquoi, comment et quoi est très, très intéressante parce qu'elle nous remet, je pense, vraiment dans le bon sens et dans le sens d'une ligne de temps qui est logique, qui est d'abord mes valeurs, mes convictions, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je poursuis comme objectif? C'est une ligne de temps tout à fait classique. C'est pas j'ai l'objectif en premier, puis après je réfléchis comment je fais pas du rétro-engineering, si tu veux. C'est j'avance de façon logique, sensée, en étant centré sur mes valeurs, en étant centré sur moi. Ce qui veut pas dire que je suis égocentrique, pas du tout.
Donc tu pars de toi pour pouvoir découvrir ce qui se passe, ce que tu pourrais apporter à tes clients, si je comprends bien. Est-ce que, selon toi, il y a des erreurs à ne pas commettre, justement? Alors, est-ce que j'imagine que, par exemple, faire le cheminement inverse, c'est pas le bon?
Non, mais le cheminement inverse, si tu veux, c'est toujours ce qu'on fait.
C'est
on
ça.
Part, en fait, on part du produit, on essaie d'expliquer aux gens comment on a fabriqué le produit, et en bout de chaîne, on explique pourquoi on a fabriqué le produit. Ce qui est pas tout à fait la communication la plus inspirante, pour reprendre un terme qui est très cher à Internet. C'est pas très très inspirant comme façon de communiquer. Le fait de communiquer en étant centré sur tes valeurs, bah, c'est quand même autre chose, ça apporte un autre niveau dans le débat. Alors c'est sûr que c'est pas avec ça que tu vas faire c'est pas avec ça que tu vas pouvoir faire par exemple un lancement orchestré, c'est pas avec ça que tu vas faire du copywriting. C'est une toute autre méthode de vente qui est basée plutôt sur une relation souple, une relation douce. C'est du slow marketing. C'est laisser le temps aux gens de venir autour de toi, de graviter autour de toi, de te découvrir. C'est avoir le courage, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que particulier aussi, parce que ça ne s'applique pas uniquement au monde professionnel. C'est quelque chose qui peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Moi, je vois mon propre why, il est présent dans ma vie de tous les jours. Le but du jeu, pour moi, c'est d'aider du mieux possible ma femme, c'est d'élever du mieux possible ma fille en lui apportant des réponses à ses questions, en la faisant se questionner aussi sur ses propres actions. Donc, mon propre why est présent à la fois dans mon univers personnel et professionnel. Donc, et à partir de là, pour revenir sur ta question, je pense qu'à partir du moment où tu as ton why, les choses deviennent beaucoup plus claires, les choses deviennent beaucoup plus simples. Et l'erreur, s'il y en a une, c'est de ne pas savoir utiliser les comment. C'est ce que j'ai un petit peu constaté ces derniers mois, c'est que voilà, les gens ne savent pas, n'arrivent pas à bien utiliser leurs comment et se posent la question de « Ok, très bien, mais mes valeurs là, qu'est-ce que j'en fais, comment je communique ?» Donc derrière, en général, on a une deuxième session qui permet de poser, de donner des exemples à la personne pour qu'elle comprenne un petit peu mieux ce que sont ses comment, ses valeurs, et où est-ce qu'elle les retrouve et comment elle peut les utiliser dans sa communication.
Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se travaille à vie? Quelque chose que aujourd'hui, ben, tu as certaines réponses et dans 6 mois, 1 an, tu vas avoir d'autres réponses?
L'être humain est un personnage fluctuant en fonction des épreuves qu'il rencontre, du parcours qui est le sien. Il y a forcément des choses qui évoluent à la marge. Maintenant, c'est difficile de te dire aujourd'hui ce que sera demain. Moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours bossé en fait dans des métiers de service. J'ai toujours été intéressé par des métiers de service. Après, ce qui va peut-être changer, c'est la façon dont je vais exprimer mon pourquoi, la façon dont je vais le déployer. Aujourd'hui, je le déploie au travers du personal branding, du coaching, de mes podcasts, de mon blog, de toutes ces choses-là. Peut-être que plus tard, je vais monter une école dans laquelle je vais apprendre aux gens à faire de la communication ou autre. Je ne sais pas. C'est peut-être le comment qui évoluera. Mais le pourquoi, il y a quand même très, très peu de chances qu'il évolue.
Ce qui est un peu logique, puisque, c'est, comme tu l'as dit, ça se rapporte à ses valeurs. Donc, les valeurs, de manière générale, même si elles peuvent fluctuer un petit peu, évoluent très peu. On change rarement du tout au tout.
Ce qui va évoluer, en fait, c'est le positionnement des valeurs sur ton échelle. C'est-à-dire qu'à certains moments de ta vie, par exemple, ça va plus être la dimension sentimentale de ton existence qui va prendre le pas sur la dimension professionnelle. Alors, je suis très simpliste, hein, pour pouvoir faire en sorte que les gens qui nous écoutent comprennent le propos. Mmh. Et à d'autres moments, c'est la dimension professionnelle qui va reprendre le pas sur la vie sentimentale. Voilà. Donc, mais elles sont toujours là. On a un socle de 5 à 10 valeurs qui sont vraiment nos valeurs fondamentales. Et ensuite, elles fluctuent en fonction du parcours de vie, du moment où on se trouve dans notre vie, de l'environnement qui est le nôtre, au moment M.
Parfait. Pourrais-tu nous partager, toi, un moment de ta vie qui t'a amené justement à trouver ce why?
Alors, il y en a un qui il est pas drôle, puisque ça a été, en fait, notre fille avait 4 ans. Et puis, on rentre de voyage à New York. On venait de passer 3 semaines sur le continent nord-américain, 1 semaine à New York et 2 semaines au Mexique. Et on rentre de là et puis on se rend compte que notre fille marche de moins en moins bien, alors que jusqu'à présent, elle avait toujours bien marché. On l'emmène consulter à l'hôpital et puis on se retrouve chez un neurologue un mardi après-midi. Et le mardi soir, notre fille est hospitalisée pour une batterie de tests. Et puis, en fait, on est resté 9 mois sans avoir de diagnostic parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils avaient, ce qu'elle avait. Enfin, ils ne savaient pas. Ils se doutaient qu'il y avait un problème et qu'il y avait certainement... elle était touchée par une maladie qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth, mais ils ne savaient pas quelle branche. Donc, le pronostic vital de la petite a été engagé pendant 9 mois. Pendant 2 ans au total, elle a été en hôpital tous les après-midi pour suivre de la rééducation, pour faire des exercices avec des kinés, pour avoir un suivi psychologique. Donc, ça a été très, très perturbant sur la cellule familiale. Donc, ma femme, ma fille et moi, ça a été très, très, très dur. On avait une petite qui était, avant sa maladie, qui était très, très joyeuse et qui, pendant 2 ans, a été complètement éteinte, qui s'est retrouvée en fauteuil roulant pendant plusieurs mois. Et puis, on l'a poussée à sortir du fauteuil roulant parce que, elle avait des attelles qui pouvaient lui permettre de marcher ou autre. Mais c'était compliqué pour elle d'accepter qu'elle était passée d'un stade de petite fille tout à fait normale à un stade de petite fille handicapée, avec cette différence que tout le monde pouvait voir dans la rue, puisqu'elle avait des attelles. Et le fauteuil la sécurisait. Donc, ça a été 2 ans qui ont été très, très pénibles émotionnellement, très pénibles physiquement, très pénibles psychiquement, et qui ont complètement fait voler en éclats mon activité et qui m'ont poussé au bout de ces 2 ans à réfléchir sur ce que j'avais envie de faire, pourquoi j'avais envie de le faire et comment j'avais envie de le faire. Donc, il y a eu pas mal de... Ça n'a pas émergé tout de suite, si tu veux. Ça n'a pas été une décision qui s'est faite comme ça. C'est quand Errol est venu me chercher pour écrire le bouquin en 2016, donc pile à la sortie du tunnel. J'avais plus vraiment déjà envie de faire de blogging. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'opportunité de faire un bouquin. Donc, j'ai fait le bouquin parce que je me suis dit que ça serait toujours bien. Ça allait me remettre un peu la tête dans le boulot et que ça serait une bonne chose. Faire un livre, c'est toujours sympa aussi. Voilà, quand tu es contacté par un éditeur, c'est quand même assez, assez flatteur d'une certaine manière. Donc, j'ai fait le bouquin. Mais je savais que bloguer pour expliquer aux gens comment bloguer était quelque chose qui définitivement ne me plaisait plus, ne m'intéressait plus. Donc, voilà, ça m'a poussé, tout ça, tous ces événements m'ont poussé à réfléchir. Et c'est dans cette période-là, justement, que j'ai lu le bouquin de Simon Sinek.
Ok. Ça, c'était en 2016. Ta petite fille, à quel âge aujourd'hui?
Elle a 10 ans.
Et comment ça se passe pour elle?
Et très bien, pour nous moins bien, parce qu'elle est très impertinente, comme ses parents. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle a une, dans la branche des maladies de Charcot-Marie-Tooth, elle a ce qu'on appelle la CMT2A, donc c'est les membres périphériques qui sont touchés. Donc elle, c'est principalement ses pieds et en partie ses mains. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau neurologique, le cerveau étant une machine assez exceptionnelle, quand il y a une déficience quelque part, vu que le cerveau il a de l'énergie et que l'énergie qu'il envoie n'arrive pas forcément là où elle devrait, bah, l'énergie revient. Et donc, il y a un surplus d'énergie. Donc, il faut bien qu'il en fasse quelque chose. Et ce qui fait qu'on a une petite fille qui est très vive, très intelligente, très espiègle et qui carbure au quart de tour, quoi. C'est, voilà, donc... c'est quand tu vas lui expliquer quelque chose, il faut vraiment bien lui expliquer parce qu'elle trouve très très vite la faille dans les explications. Donc, ouais, ça te pousse à faire attention à la façon dont tu parles, à la façon dont tu t'expliques, à la façon dont tu transmets un message. Donc, pour moi qui suis dans le personal branding, donc la com et le marketing, ça j'ai vraiment à faire attention et à bien structurer et modeler le message.
Donc, quand elle te demande pourquoi, tu tournes ta langue cette fois dans ta bouche, histoire de bien réfléchir à ce que tu vas lui dire.
Non, en général, je réponds par une autre question.
Ok, pour que ce soit elle qui réfléchisse par elle-même.
C'est le but du jeu, si tu veux. Normalement, un bon coach, c'est quelqu'un qui te pose des questions. Ce n'est pas quelqu'un qui t'apporte des réponses. Il y a pas mal de gens qui se disent coach en entrepreneur aujourd'hui sur Internet et qui ne te posent jamais une question, qui te disent c'est comme ça qu'il faut faire. Et des mecs comme ça, sur YouTube, t'en trouves des pelles et des pelles, quoi. Pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt parce que le but du jeu, ce n'est pas de faire des clones de Stéphane Brio. Stéphane Brio, il a son histoire, il est ce qu'il est, il a son parcours qui est ce qu'il est. Et ce n'est pas parce que moi, je réussis d'une façon que ça va pouvoir s'appliquer de la même façon à tout le monde. Je veux dire, ça serait très, très prétentieux de croire ça. Et c'est oublier un petit peu ce qu'est la nature humaine. Chaque personne a ses galères, ses doutes. On va trouver des troncs communs, mais la façon dont les gens vont réagir, le degré de sensibilité qui est le leur, le niveau de conviction qui est le leur, est très variable. Donc, c'est pas en donnant des conseils aux gens que tu peux les aider. C'est en étant, je dirais, en écho ou en miroir avec eux, dans une forme d'empathie qui va te permettre de faire en sorte que la personne trouve la réponse en elle-même.
Est-ce que tu penses que quand on cherche à développer son personal branding et donc qu'on recherche ce why, est-ce que tu penses qu'il y a des qualités toutes particulières qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir faciliter cette démarche?
Non, je pense pas qu'il y ait... Si, il y en a une qui est être curieux de soi-même. Je crois qu'il faut, il faut pas avoir peur de se découvrir. Donc, en fait, s'il en faut deux, qui sont le courage et qui sont la curiosité. C'est pas évident forcément de replonger dans des souvenirs marquants. C'est pas évident de replonger dans le passé parce que on n'a pas envie de revivre des émotions qui nous sont apparues comme douloureuses, comme pénibles. Pourtant, ce sont des expériences qui nous ont forgés. J'ai eu l'occasion d'avoir un certain nombre de femmes avec qui j'ai travaillé sur cette notion du pourquoi. Et plusieurs d'entre elles ont vécu le viol. Et chacune en a tiré quelque chose de positif. Le truc, si tu veux, c'est que c'est difficile quand tu es au cœur de l'événement, que tu l'as vécu, que tu le portes, de te rendre compte que finalement, un événement aussi terrible que celui-ci puisse avoir des répercussions positives dans ton existence. C'est une forme de résilience inconsciente. Mmh. Et finalement, à la fin de l'entretien, quand on en discute, ben il y a un regard nouveau qui se porte sur l'événement. Alors, l'événement restera, il a eu lieu, il s'est passé, tu ne peux pas l'effacer, c'est juste impossible. Maintenant, ce qui est assez formidable, c'est de pouvoir avoir entendu ces femmes dire à un moment donné, mais waouh, je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, ces qualités que j'ai développées pouvaient être liées à cet événement. C'était assez inconcevable pour moi. Donc, on n'en fait pas un bel événement, parce que ça reste un événement traumatisant et ça reste quelque chose que aucune femme ne devrait vivre sur Terre. Mais aussi étrange et aussi douloureux que ça puisse être à entendre, il y a quelque chose de positif à en tirer après coup dans ce qu'on peut vivre, dans la façon dont on va appréhender la vie derrière.
C'est une sorte de capacité de pouvoir rebondir face à l'événement qui nous est arrivé.
Ouais, c'est la résilience, ouais.
Ok. Et pour nos auditeurs qui justement se posent cette question-là, est-ce que tu aurais peut-être un exercice ou peut-être des pistes de réflexion sur lesquelles les gens pourraient se dire bah tiens, si j'ai envie de démarrer et réfléchir à mon pourquoi pour pouvoir ensuite trouver mon comment et mon quoi, par quoi je commence et comment je m'y prends.
Alors déjà, trouver son pourquoi tout seul, c'est très difficile. On peut faire des exercices pour faire émerger un certain nombre de choses, donc je vais en donner un ou deux qui sont réalisables tout seul. Mm-hmm. En revanche, faire émerger son pourquoi tout seul, c'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être juge et partie. Tu ne peux pas être à la fois, l'avocat, le juge et le coupable. C'est juste impossible. C'est très, 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 très difficile, pour ne pas dire impossible. Donc, parce qu'il y a quelques personnes qui ont réussi à le faire émerger tout seul, mais ça demande des années et des années de recherche et d'introspection. Mm-hmm. Et malheureusement, la vie moderne ne nous laisse pas forcément l'occasion de pouvoir prendre ce temps-là pour être en introspection. Moi, personnellement, j'ai passé presque deux années entières à me former, à lire et à chercher ce pourquoi. J'ai dû écrire pas loin d'une centaine de pages sur mes carnets pour faire émerger la chose. Je m'en étais approché, j'étais pas loin. Mais finalement, c'est quand j'ai fait appel à un coach que, effectivement, oui, je me suis rendu compte que j'étais sur la bonne piste, mais que j'étais pas encore arrivé. Alors, en revanche, quand on veut commencer un petit peu à se chercher et à tracer un chemin, le plus facile pour rentrer en introspection, c'est de commencer par les valeurs. Et pour les francophones, un bon truc, c'est de commencer par tout ce qu'on n'aime pas. Lister déjà, sans réfléchir plus loin que ça, à lister toutes les choses qu'on n'aime pas. Ensuite, on reprend cette liste et pour chacun des points qu'on aura inscrit, c'est de se demander pour quelles raisons on n'aime pas. Et puis, à partir de là, donc, on va commencer à s'interroger, une fois qu'on aura écrit les raisons pour lesquelles on n'aime pas, sur les valeurs. Et on va arriver, finalement, on va partir du négatif pour dégager quelque chose qui va être positif. Donc, ça va être, j'aime pas, par exemple, je ne sais pas, je n'aime pas l'infidélité. Voilà, je n'aime pas l'adultère et compagnie. Pourquoi ? Parce que je crois en la fidélité, je crois à l'amour plein et entier, et ainsi de suite. Et on va finalement arriver à une valeur qui va être positive. Chez les Anglo-Saxons, ils sont plus habitués que nous à travailler sur le talent, donc sur des choses positives. Donc, ça va être qu'est-ce que vous aimez et pour quelles raisons vous l'aimez et quelle est, à votre avis, la valeur qui se cache derrière.
Intéressant, c'est aussi des exercices qu'on peut retrouver très très facilement en développement personnel, si je me trompe pas.
Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Okay. De toute façon, personal branding, pour faire un bon personal branding, on va partir de la personne, on va pas partir du produit. Le produit, je veux dire, qu'est-ce qu'on va vendre? On va vendre une formation marketing, on va vendre une formation blogging, on va vendre une formation réseaux sociaux, on va vendre une formation en je sais pas quoi. On va parler d'un produit. Ouais, ok, très bien. Mais ça, c'est pas terrible si tu veux faire un branding sur un produit. C'est vraiment de la publicité classico-classique, quoi. Mmh. Donc derrière, on va utiliser les bons vieux leviers du copywriting. J'ai rien contre le copywriting, hein, c'est pas la question, mais ce sont pas des leviers, si tu veux, qui sont à mon sens durables. C'est du one shot. c'est comme faire une promotion, c'est un one shot. Donc, quand tu rentres sur ce terrain-là, tu vas être en compétition permanente avec le marché, permanente sur la notion du prix, sur la notion du volume de vente et ainsi de suite. Si tu veux te dégager de cette fameuse rat race dont certains sont très friands, l'idéal, c'est de partir sur ce qui te rend unique. Et ce qui rend unique quelqu'un, bah, c'est quelqu'un, c'est lui, c'est ce qui fait ses valeurs, c'est les mots qu'il emploie. Alors, tu peux avoir des gens qui vont avoir le même pourquoi, qui vont avoir la même ambition, mais la façon dont elles vont avoir de l'exprimer, le choix qu'elles vont faire dans les mots qu'elles vont utiliser pour communiquer, les canaux qu'elles vont utiliser pour communiquer, les valeurs, les émotions qu'elles vont vouloir véhiculer seront sans doute différentes. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour travailler le branding de la personne.
Ok. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter par rapport justement à ce why personal branding? Parce que sinon, je passe aux questions flash.
Il n'y a rien de particulier à rajouter, si ce n'est que ce n'est pas quelque chose qui est complètement hors sol, ce n'est pas quelque chose qui est complètement ésotérique. C'est vraiment un atout parce que, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va vraiment aider la personne qui s'engage sur cette démarche-là à se cadrer, à se comprendre et à vraiment reprendre le contrôle de sa communication. Donc, c'est un exercice introspectif, mais c'est un exercice également qui va être très, très utile et très rassurant pour les mois à venir dans la communication de la personne.
Je suis complètement d'accord avec toi parce que quand moi, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur à me dire, bah, tiens, je veux me lancer pour être mon propre patron puis avoir des clients et donc faire ce métier d'entrepreneur, j'avais deux choix. C'était soit de partir billet en tête et de me dire, bah, tiens, je fonce dans le tas et puis je vais chercher des clients, soit je passe par du développement personnel et je réfléchis d'abord au pourquoi et à toutes ces choses-là. Et je suis passé par des livres de développement personnel et par le bouquin de Simon Sinek. Ça m'a beaucoup aidé en fait par la suite dans ma communication, dans ma façon de parler aux gens, même si c'est vrai que j'ai pris, c'est un peu reculé pour mieux sauter. C'est-à-dire que j'ai pris un peu de retard ou de recul sur qui j'étais et ce que je voulais faire pour ensuite attaquer le marché d'une façon plus efficace et plus intéressante.
Ce que tu viens de dire est super intéressant, cette notion de temporalité. Quand tu dis j'ai pris du retard, mais en fait c'était reculé pour mieux sauter. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est prendre le temps de s'observer, de s'analyser, de faire émerger une raison d'être, un objectif, de déterminer la façon dont on a envie d'agir sur le marché. Et finalement, on a l'impression qu'on va passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à réfléchir et que c'est du temps de perdu. Ben, en fait, non. On a gagné 2 ans, 3 ans. Réellement, parce que c'est réellement au bout de 2 ans, 3 ans, voire 4 ou 5 ans dans certains cas, qu'on commence vraiment à maîtriser son entreprise, qu'on commence à maîtriser sa communication, qu'on commence à avoir une meilleure connaissance de soi en tant qu'entrepreneur. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a aucune structure, on ne sait pas où on va, on a juste envie de vendre un produit parce qu'on sent que c'est ce truc-là qu'on a envie de vendre, mais comment on le vend ? Donc, on va faire ce que font tout le monde, on va se tourner vers le web, on va suivre des marketeurs, on va suivre parfois des gourous, on va se retrouver embringué dans des trucs, puis au bout d'un moment, on va se dire « Putain, j'ai lâché, là, ça fait 4 000, 5 000 euros que j'ai lâché, et finalement, qu'est-ce que j'ai ?»
J'ai pas avancé.
Pas grand-chose. Donc, ce n'est pas une perte de temps, c'est pour le coup, c'est vraiment prendre un temps pour soi, pour se donner des chances de mieux réussir, prendre un meilleur départ et de se mettre tout de suite vraiment bien sur le marché.
Donc, je vais passer aux questions flash que tu as choisies. La première, si tu avais un tableau sur lequel afficher quelque chose chez toi, qu'est-ce que ce serait ?
J'afficherais des mots. Il y a des mots que j'aime bien, comme storytelling, comme vulnérabilité, comme la honte, analyse transactionnelle, comme pourquoi, raison, compréhension, résilience, accueillir. Il y a tout un tas de choses, de mots comme ça que j'afficherais. D'ailleurs, c'est prévu puisque je vais refaire mon bureau dans pas longtemps. Parce que tu verrais, mon bureau, il y a 5 ans, il n'y avait pas un bouquin dessus. Et là, aujourd'hui, j'ai plus de place. J'ai tellement de bouquins que je ne sais plus où les mettre. Mais j'adore ça. Je trouve ça génial. Je suis très fier de ça parce que je ne lisais pas. Donc, je suis très, très fier d'avoir beaucoup de livres aujourd'hui. Mais j'ai envie d'avoir un tableau. Donc, c'est prévu. Alors, il ne sera pas face à moi. Il sera dans mon dos. Mais je le regarderai assez régulièrement. Enfin, dans mon dos ou sur ma droite. Et puis, afficher des photos. Voilà, j'adore ma fille, j'adore la boule qu'elle a en photo et j'ai envie d'avoir un espèce de mix entre ma fille, des mots comme ça qui sont importants pour moi. Et puis, j'ai un coffret, alors, je ne sais pas si tu connais, toi, mais Albator, est-ce que ça te parle ?
Ah bah oui, ça me parle.
Voilà. Donc, on m'a offert un super coffret il y a bientôt 10 ans de ça, à Noël, un coffret collector avec plein de lithographies à l'intérieur de Albator, la version 84. Et il y a des lithos dedans que j'ai vraiment envie d'afficher parce que je les trouve juste magnifiques, dont une d'Albator et une autre de l'Arcadia.
Et donc, ton objectif de ça, ce serait de quoi ? De perdre ton regard, de mettre ton regard là-dessus, puis de le perdre un peu, puis de te perdre un peu dans tes pensées grâce à ce tableau ?
Ouais, c'est une forme de méditation. C'est ce qu'on appelle la méditation contemplative. Mm-hmm. Donc, j'ai la chance d'avoir un panorama depuis mon balcon, puisqu'on habite au 16e et 17e étage. On a la chance d'être sur un duplex et d'avoir une vue sur la baie de Marseille qui est assez fantastique. Donc, j'aime bien me plonger les yeux dans la Méditerranée. Ça me fait beaucoup de bien. Ça laisse beaucoup de liberté à l'esprit pour penser à des tas de choses qui vont, qui viennent, qui s'entrechoquent ou parfois à rien du tout, tu vois, d'avoir cette espèce de sensation d'être juste là. Et puis le fait d'avoir comme ça des mots, des images de ma fille, des photos de ma femme, c'est autant de composantes de ma vie. Donc et puis c'est un très bon moyen de créer des liens, des idées entre les choses. Donc, mon talent principal sur le Strength Finder étant l'ideation, donc cette capacité à avoir des idées, j'aime bien avoir une forme de fouillis sur mon bureau autour de moi parce que c'est un petit peu mon atelier d'artiste, si tu veux. C'est cette palette que l'artiste a entre les mains et puis c'est tout un mélange de couleurs. Puis d'un coup, il va avoir une idée, voilà. En voyant les couleurs, en associant les couleurs dans son esprit, eh ben, il va finir par les associer sur la palette et ça va venir se poser sur la toile et il va se passer quelque chose. Et j'aime bien fonctionner comme ça.
J'aime beaucoup tes images, elles sont très parlantes. Deuxième question flash pour toi. Quelle mauvaise recommandation as-tu déjà entendue concernant ton métier ?
Quelle mauvaise recommandation ? J'en ai tellement entendu des mauvaises. Je dirais que je crois que la pire, on ne me l'a pas dit à moi parce que je ne suis pas public de ces choses-là, mais je crois que la pire que j'ai pu entendre, c'est « mettez votre entreprise au service de votre vie et non pas votre vie au service de votre entreprise ». Je ne citerai pas l'auteur de cette phrase parce que ça sert à rien de lui faire de la publicité, mais je pense que quand on commence à dire « je vais mettre mon entreprise au service de ma vie », on n'a pas compris ce qu'est une entreprise. Une entreprise, elle doit servir la collectivité. Elle est là pour servir les clients. Elle n'est pas là pour servir les desseins de gloire d'une personne. Donc, l'avenir a prouvé que cette personne-là avait atteint un certain plafond de verre. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que je trouve ça très, très toxique. Parce qu'une entreprise, finalement, ce sont des clients. S'il n'y a pas de clients, quelle que soit l'entreprise, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit une société avec plusieurs centaines de salariés, elle a des clients. Et vouloir mettre tes clients au service de ta vie, je trouve que ce n'est pas une belle idéologie. Chacun pense comme il veut. Voilà. Mais je trouve que c'est ramener le client tout simplement à une dimension monétaire. Et il n'y a rien d'humain dans tout ça. Il n'y a rien d'humain.
C'est un chiffre.
Ouais, je t'avouerais que ça m'interpelle et ça me choque dans mes valeurs. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc après, il y a plein de choses qu'on peut entendre sur l'entrepreneuriat qui sont « l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est super, c'est la liberté ». C'est super d'entreprendre. Effectivement, c'est une très très belle chose, mais c'est difficile. Mm-hmm. C'est difficile. On n'est pas libre. On est prisonnier d'un emploi du temps. On est prisonnier du chiffre d'affaires parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires hein, aussi. Il ne faut pas se mentir non plus. Il faut servir les clients. Donc effectivement, on a la liberté du planning, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, si un matin t'as pas envie de bosser, ce matin-là, tu prends pas de rendez-vous, tu te débrouilles, tu agences ton planning un petit peu comme tu veux. Donc oui, tu as une certaine liberté que tu n'as pas quand tu es salarié. Par contre, le salarié, à la fin du mois, il va toucher sa paye. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il va toucher sa paye. Si toi, tu ne fais pas rentrer de clients, tu n'auras pas de sous. Le jour où tu arrêtes de bosser, quand tu es en France, le jour où tu arrêtes ton entreprise, tu n'as pas de couverture chômage. Mmh. Donc, y a pas mal de choses, si tu veux. Donc, présenter l'entrepreneuriat comme une liberté, oui, sous certains aspects, non, sous d'autres. Et puis, la dernière chose que je déteste entendre, c'est cette opposition entre entrepreneur et salarié. J'ai écrit un topic LinkedIn il n'y a pas longtemps là-dessus en disant, mais qu'à un moment donné, c'est bien beau d'opposer les uns et les autres, mais juste une chose, on est allé sur la Lune grâce à des fonctionnaires. Il ne faut pas oublier que la NASA, toute NASA qu'elle est, c'est juste des fonctionnaires de l'État américain. Donc, c'est des fonctionnaires qui ont été sur la Lune, des fonctionnaires qui ont fabriqué les fusées pour aller sur la Lune. Les avions, les trains, tout ça, c'est des salariés qui les fabriquent. Donc, tous ces entrepreneurs qui se disent libres et qui voyagent à travers le monde en disant « moi, je suis libre, je suis libéré de l'esclavagisme, du salariat », ouais, bah, il y aurait pas de salariés pour construire ton Boeing ou ton Airbus, il y aurait pas de salariés pour piloter l'avion qui va t'emmener à Bali ou je ne sais où, tirer comment ? À la rame ? Voilà, tu vois, enfin, c'est des trucs comme ça, c'est juste un petit peu de bon sens, mais n'entreprenez pas sur des mauvaises raisons. N'entreprenez pas pour gagner de l'argent parce que vous allez être déçu les premières années, ça va être dur. N'entreprenez pas en croyant que vous allez être libre et que vous allez faire ce que vous voulez, que ça va être la fête du slip. Pas du tout. Il va falloir bosser. Et c'est génial par contre, c'est vrai que c'est génial. C'est un kiff, moi je prends un pied terrible, je rencontre des gens, je dis ce que j'ai à dire, je discute, j'échange. Voilà, c'est les montagnes russes émotionnelles en permanence, quoi. Et c'est un pied terrible émotionnellement, vous avez vu des choses qui sont, waouh, c'est costaud.
Clairement.
Je pense que tu peux en témoigner de ton côté également.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et je suis complètement d'accord avec toi que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, j'avais une vingtaine d'années, j'entendais un peu les discours dont tu as parlé. Et la réalité est tout autre aujourd'hui. Je travaille du lundi au dimanche et je n'ai pas spécifiquement de jours de week-end. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai plus la possibilité de travailler un peu tout le temps. Mais malgré tout, ça bouffe ma vie. Ma vie, je l'aime telle qu'elle est, et puis je n'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de leur week-end, qui ont besoin de terminer à 17h. Aujourd'hui, bah, tu vois, toi, il est 1h du matin bientôt pour toi. Moi, il est 19h et puis j'ai pas terminé, quoi. Donc, bah, c'est une superbe vie. Comme tu dis, il y a de superbes choses à vivre grâce à ça, mais c'est pas fait pour tout le monde.
Non, c'est pas fait. Et puis en plus, je crois qu'il faut respecter les désirs de chacun. Moi, j'ai rencontré ma femme à l'époque, elle était entrepreneur. Elle avait monté une agence d'architecture à Paris. Ils avaient réussi à se développer à l'international. Et c'était l'agence qui, sur la place parisienne, commençait à prendre vraiment de l'ampleur. Mais elle, ça commençait à la fatiguer parce qu'elle passait sa vie dans les avions, parce qu'elle allait de projet en projet, de chantier en chantier à travers le monde et que voilà, c'était pas vraiment la vie dont elle avait envie. Puis la tournure que l'agence prenait par rapport à son associé ne lui plaisait pas vraiment. Donc, elle m'a dit voilà, je vais rentrer, je vais me poser, ça te tente, on se fait un tour de France pendant un mois et demi, deux mois, là, et puis on déconnecte et puis on voit ce qu'on fait. Donc on a déconnecté, on est arrivé ici à Marseille, on a décidé de se poser là sur un coup de tête, et puis elle est devenue salariée. Et sa grande phrase au début, si tu veux, c'était de me dire, bah, moi en tant que salarié aujourd'hui, je suis en congé payé. Je suis en congé. Voilà, je suis en train de découvrir ce que c'est que la vie de quelqu'un qui a une fiche de paye à la fin du mois, qui a un rythme de vie normal. Et j'ai vraiment l'impression d'être en congé, quoi. Elle me dit, là, en ce moment, c'est, je me frise, quoi. Et puis, voilà, elle a retrouvé finalement des entreprises avec des projets qui la motivaient ou autre. Et elle a participé à des projets qui étaient super intéressants. Donc, voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie d'entreprendre. Et je crois que c'est Stéphane Mallard qui fait partie de ces gens qui portent une vision qui est tous entrepreneurs. Ouais, moi, je veux bien, mais alors, je sais pas ce que ça va donner, par exemple, à la RATP ou chez Air France ou dans d'autres entreprises qui sont étatiques, de bosser qu'avec des gens qui vont être freelance. Ça va être un sacré beau bordel quand même. Hein. Il y a besoin d'un minimum de structure quand même, tu vois, sinon on ne va pas s'en sortir, quoi.
Et puis, nous-mêmes, entrepreneurs, on a besoin de salariés. Tu dis, on a besoin de structure. C'est exactement ça.
Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un patron, finalement ? Un patron, c'est juste un entrepreneur qui, à un moment donné, a très bien réussi, qui a développé son entreprise et qui, pour rendre le service qu'il vend, a besoin de salariés pour faire tourner la structure et livrer la promesse de vente. C'est génial. C'est génial. Et puis, tu as des gens qui ont envie de partager ce truc-là. Si je prends SpaceX, par exemple, actuellement, ouais. Tout le monde parle de SpaceX. Waouh, Elon Musk. Ouais, OK, on parle de Tesla aussi au travers d'Elon Musk. OK, super, mais qu'on mode d'un doute. OK, Elon Musk, il a eu l'idée de SpaceX. Très bien. Elon Musk, il a eu l'idée de Tesla. Très bien. Mais ce n'est pas lui qui est en train de dessiner et de concevoir les fusées. Ce n'est pas lui qui est en train de concevoir et de dessiner les véhicules Tesla. Lui, il a eu l'idée. Il a apporté les financements, ce qui n'est pas rien. Entre les financements et l'idée, franchement, ce n'est pas rien. Mais en attendant, ce sont ces salariés qui sont en train de rendre cette aventure possible. Et moi, j'ai vu plusieurs documentaires sur SpaceX. Faut voir la banane qu'ils ont, les mecs. Hein. Putain, ils sont super motivés à l'idée de bosser sur un tel projet. Alors oui, effectivement, tout le monde va pas bosser pour SpaceX. Mais j'ai vu pareil des documentaires sur la 380. Faut voir le dynamisme et l'envie que les mecs ont quand ils fabriquent la 380, la fierté qui en ressort. Il n'y a pas, dans le salariat, il n'y a pas que des pauvres emplois de bureau dans des bureaux gris où les gens se font chier. Il y a aussi énormément de choses super intéressantes à faire. Et je suis désolé, SpaceX, ça ne se construit pas dans un garage. Hein.
Non, clairement. Non, ça... Et puis, ce n'est pas seulement avec les petites mains d'Elon Musk, mais c'est avec les mains de tout le monde.
Oui, c'est... OK, c'est effectivement, ça part de ses finances, ça part de son idée. Ça, on est tout à fait d'accord et je lui retire absolument rien à Elon Musk. Au contraire, je trouve ça génial. Mais derrière, ce qui fait que son entreprise peut exister, elle existe grâce à ses salariés. Si aujourd'hui, des gens comme toi ou comme moi, nous sommes entrepreneurs, c'est grâce à nos clients. Si on n'a pas de clients, on n'existe pas. Point. Fin de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des gens qui ont envie de pouvoir participer à des aventures qui vont au-delà de l'entendement, parce que réinventer le secteur automobile, la conquête spatiale, toute la conquête aéronautique, la bataille que se livrent Boeing, Airbus et autres, ce sont des choses qui sont mais ultra passionnantes, ultra palpitantes. Et puis, bah, à côté de ça, oui, t'as des gens comme toi, comme moi, qui ont envie d'apporter quelque chose. Alors, on ne laissera peut-être pas l'empreinte qu'aura laissé Elon Musk, mais en attendant, un podium, il y a jusqu'à présent, il y a une première place, une deuxième place, une troisième place. Personnellement, être sur la première place, je m'en fous un petit peu. Il y a longtemps que je sais que je ne changerai pas le monde et que je ne laisserai pas une empreinte impérissable. Voilà, j'ai laissé un bouquin pour la postérité. J'ai ma femme, ma fille. Je vis au jour le jour avec ma femme et ma fille. J'essaye d'éduquer ma fille du mieux possible pour qu'elle puisse vivre une vie aussi heureuse que possible. Bah, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal parce que quand je vois le nombre de gamins qui traînent la rue, qui font un peu n'importe quoi, je pense que il y a des parents qui feraient bien de se poser 2-3 questions sur l'éducation qu'ils transmettent à leurs enfants.
Et donc toi, pour terminer là-dessus, si demain tu devais arrêter ta vie, tu aurais estimé qu'elle aurait été réussie?
Écoute, elle a déjà failli s'arrêter, ma vie. 3 semaines après la naissance de ma fille, j'ai fait un infarctus avec mort subite et je suis revenu, on se demande encore comment. Les cardiologues qui m'ont sorti de là ont toujours pas compris comment je m'en étais sorti et surtout comment je m'en étais sorti sans avoir de perte au niveau du cœur. Parce que mon cœur, aujourd'hui, on me fait un électrocardiogramme, t'as l'impression que j'ai jamais rien eu, quoi. Donc la question s'est posée. La question, pour moi, elle s'est vraiment posée. Je t'avouerai que j'ai pas tout à fait fini ce que j'avais à faire. Et puis que j'ai encore quand même envie de voir ma fille grandir. Et puis voilà, j'ai envie de voir ce monde avancer le plus loin possible, sachant que j'ai une date de péremption. Je crois que ce qui a changé, en fait, c'est mon rapport que j'avais à la mort. Ce que je vais te dire va sans doute interpeller les gens qui vont écouter. Et moi, ça m'a remué pendant presque 2 ans après l'infarctus. La mort est la chose la plus agréable que l'être humain puisse vivre sur Terre. Ouais, alors je te la refais. La mort, elle est certainement la chose la plus agréable que l'être humain puisse vivre. Chimiquement, la machine est vachement bien foutue. Non, c'est pas une libération. C'est pas une libération. Enfin, ça dépend de la vie que tu as eue. Moi, j'ai eu une vie difficile, mais faite avec des émotions très extrêmes, très fortes, dans le bon comme dans le mauvais. Mais ce qui se passe, c'est que j'étais pleinement conscient que j'étais en train de mourir. Au moment où tu meurs, en fait, il y a un truc qui se passe chimiquement dans le cerveau qui fait que tu es conscient que tu es en train de mourir. Et tout est fait pour que tu restes là, que tu ne reviennes pas. Parce que tu sais que c'est l'heure, tu sais qu'il y a un truc qui t'appelle et voilà, et c'est parti. Et c'est d'une extrême douceur. Pourtant, des moments doux, j'en ai vécu beaucoup dans ma vie. Ça, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, ce qui m'a fait revenir, c'est que à un moment, dans cette espèce de lumière blanche, ben, j'ai vu la silhouette d'un enfant, et puis cet enfant qui tendait la main à la silhouette d'un adulte. Et là, je me suis dit, mais au fait, pépère, t'as une petite fille de 3 semaines. Ce serait peut-être temps de revenir quand même. Et... par miracle, parce que je vois pas d'autre mot, par miracle, mon cœur s'est remis à battre normalement, alors que ça faisait, en fait, j'ai été en défibrillation pendant presque 2h30, 3h. Donc, par miracle, à force de recevoir des chocs électriques, la machine s'est mise à refonctionner et j'ai gardé aucune séquelle au cœur. Donc voilà, ça fait partie des événements qui, dans une vie, à un moment donné, font que tu es un peu secoué et puis tu es un peu plus à l'aise avec la vie derrière.
T'es beaucoup livré aujourd'hui à nous et à moi notamment. Merci beaucoup Stéphane.
Mais je t'en prie.
C'était très agréable. On sent quelqu'un de très humain et ça, je pense, c'est ce que tu souhaites vraiment transmettre à tout le monde. Et c'est très agréable que plutôt que d'avoir des robots à qui on parle, ça nous arrive trop souvent d'en rencontrer. Donc merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Donc merci.
Ben merci à toi. Et tu vois, c'est juste là pour finir, je dirais que c'est toute la différence entre être et faire. C'est il y a des gens qui font l'entrepreneur, donc ils se mettent un masque d'entrepreneur, et il y a des gens qui sont entrepreneurs. Il y a des gens qui font de l'humain et il y a des gens qui sont humains. Et je vous invite pour celles et ceux qui nous écoutent à réfléchir. Est-ce que vous êtes entrepreneur ou est-ce que vous faites l'entrepreneur? Parce que ce sont deux postures complètement différentes. Et la façon d'être réellement, d'incarner les choses, est complètement différente quand on est ou quand on fait. Voilà.
J'allais te demander le mot de la fin. Est-ce que c'est celui-ci?
Le mot de la fin, ce sera tout simplement fin.
Merci Stéphane.
Merci à toi Julien.
Bye.
Que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation, pensez à vous abonner au podcast Comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL de ce podcast est mentionnée dans les commentaires de l'épisode. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.